Vous écoutez RTL.
18h.
RTL Soir.
Marie Guerrier.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. À quelques heures de l'élection de Miss France, les candidates sentent la tension monter. Elles redoutent le moindre faux pas, le moindre accroc, mais promettent du rêve sur la scène du Zénith de Lille. Un grand nom de la musique classique disparaît, le chef d'orchestre Kurt Mazur s'est éteint à 88 ans. Dans le journal, l'enquête préliminaire pour violence et agression sexuelle qui vise des policiers du 12e arrondissement de Paris à la suite de plaintes déposées par 18 adolescents. Sécurité, emploi, environnement, éducation, tous les grands thèmes qui feront 2016 passer en revue par les ministres réunis en séminaire de travail autour de François Hollande. La hotte du Père Noël se remplit, ce sont les derniers jours pour les achats. Pourquoi ce besoin d'offrir des cadeaux? D'où vient la tradition? Comment évolue-t-elle? On en parlera avec l'invité d'RTL Soir, le chercheur Dominique Desjeux. Le foot, 19e journée de Ligue 1, le PSG ultra leader joue son dernier match avant la trêve à Caen. Où en est le score, Frédéric Veil?
Eh bien, la hotte du Père Noël se remplit aussi pour le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 à la mi-temps. Di Maria à la 16e et un chef-d'œuvre de Zlatan Ibrahimovic à la 36e.
Le quintet de Vincennes, il fallait jouer cet après-midi pour gagner. Le 2, le 8, le 11, le 13 et le 18. La tendance météo pour demain, Valérie Quintin, encore une fois, beaucoup de douceur.
Beaucoup de douceur et de la pluie. Une dégradation va traverser le pays, mais elle le fera très très vite.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Marie Guerrier.
Elles sont 31, mais une seule ce soir portera la couronne de Miss France 2016. La compétition commence dans 3 heures sur la scène du Zénith de Lille, en direct devant les caméras de TF1. Les prétendantes se préparent dans les coulisses, un peu de trac, un peu de stress. Mais Sylvie Tellier, la directrice générale, veille sur elles.
Oui, la pression monte parce qu'elles savent que tout se joue sur scène au moment de la prise de micro et que le stress peut être dévastateur en fait dans un programme comme ça. On n'est pas à l'abri d'une chute, on n'est pas à l'abri d'une robe qui se déchire, on n'est pas à l'abri d'un trou dans les chorégraphies, on n'est pas à l'abri d'un problème technique. Mais c'est la joie du direct, il y a peu d'émissions en direct aujourd'hui et moi je suis ravie que Miss France en soit une parce que toute cette magie en fait elle est là, elle est palpable aujourd'hui et on a hâte de commencer. Cette année c'est le thème du rêve, on va revisiter nos rêves d'enfants. Alors avec l'aide d'anciennes Miss France qui vont incarner ces rêves avec beaucoup beaucoup de glamour et toujours beaucoup d'élégance.
Il y a eu 15 jours de rêve aussi entre guillemets pour les Miss dans le Nord là.
Il y a eu un mois de rêve, il y a eu 15 jours à Tahiti et puis 15 jours de rêve ici à Lille parce que le public a été très réceptif, les gens ont été d'une extrême gentillesse, très accueillants. On a goûté aux gaufres, on a goûté aux maroilles, on a goûté à plein de choses, à trop de choses.
Ouais. Enfin pas trop de choses quand même, hein. Il faut pouvoir fermer les robes bien ajustées ce soir. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, était au micro RTL de Franck Hanson. Demain matin, la nouvelle Miss France sera l'invitée de Bernard Poirette sur RTL à 8h50. L'un des plus grands chefs d'orchestre vient de mourir, l'Allemand Kurt Mazur, avait 88 ans. Il avait relevé en 2012 sa maladie de Parkinson. Il avait dirigé les plus prestigieux orchestres au monde, le Philharmonique de Dresde, de Londres, de New York, l'Orchestre National de France. Ève Ruggieri, la grande spécialiste de la musique classique, jointe par Jean-Baptiste Bourgeon pour RTL, avait travaillé avec le maestro dans les années 90.
C'est un homme qui était très, très impressionnant, qui avait énormément de charisme. J'ai découvert avant et après les cancers un homme qui, derrière cette apparence extrêmement sévère, était très attentif, très, très encourageant. Il m'a beaucoup aidé. Et si vous voulez, aujourd'hui, avec le recul, j'ai le sentiment qu'on perd une des dernières grandes légendes, après Karajan, après des gens comme Horowitz, de l'histoire de la musique du XXe siècle, oui.
L'hommage d'Ève Ruggieri au chef d'orchestre Kurt Mazur qui vient de mourir à 88 ans. La police des polices enquête sur une dizaine d'agents du commissariat du 12e arrondissement de Paris. 18 adolescents accusent ces agents de violences, d'agressions sexuelles et d'insultes racistes. Mélina Fachin, vous êtes pour RTL dans le quartier Reuilly-Montgalet, où les faits se seraient produits entre l'été 2013 et l'été 2015.
Oui, 2 années durant lesquelles les adolescents se sont confiés peu à peu à leurs proches et notamment aux éducateurs de leur quartier. Omer Mascapitolin est le président de l'association MCDS. Dans un premier temps, il a tenté d'organiser une rencontre entre les jeunes et les policiers en vain.
Les fonctionnaires qui avaient été mis en cause n'ont pas du tout apprécié. Et donc, il y a eu, entre guillemets, des mesures de rétorsion contre ces jeunes. Donc, des contrôles plus systématiques, des menaces, on n'aime pas les balances, ce genre de choses.
C'est un peu plus tard que l'un des plaignants, âgé de 15 ans, évoque pour la première fois une agression sexuelle. S'en suivront les dépôts de plainte. Ces histoires de harcèlement, d'insultes n'ont pas vraiment surpris Omar Mascapitolin. Il assiste très régulièrement aux fouilles musclées dans son quartier.
Vous retrouvez plaqué contre mur, on vous demande d'écarter les jambes, on vous palpe. Oui, c'est, je le vois, je le subis aussi.
Du côté des forces de l'ordre, on appelle évidemment à beaucoup de prudence. Luc Poignant du syndicat Unité CGP Police.
Je vous rappelle quand même que mes collègues ont droit à la présomption d'innocence. Donc il faut attendre que l'enquête se déroule et que les pièces viennent se rajouter à l'enquête. Et on verra à ce moment-là quelle en sera l'issue.
Une enquête préliminaire qui, vous l'avez dit, a été confiée hier à l'IGPN, la police des polices.
Mélina Fachin dans le 12e arrondissement de Paris pour RTL. Dans l'enquête à Nantes sur la femme qui a été traînée par une voiture en plein centre-ville jeudi soir, trois personnes sont en garde à vue depuis ce matin. Trois personnes qui se trouvaient dans la voiture au moment du drame, Gauthier de Lombugard.
Oui, trois hommes âgés de 23, 37 et 41 ans ont en ce moment auditionné par les enquêteurs. Tous les trois se connaissaient et se trouvaient, semble-t-il, dans la voiture qui aurait traîné sur près de 2 km une femme de 43 ans. Une scène d'une violence inouïe qui s'est déroulée dans le centre-ville de Nantes jeudi après-midi. Alors que les trois hommes sont à bord d'un petit utilitaire Ford à proximité de la piscine Gloriette, une altercation éclate entre le conducteur et sa passagère. Un ou deux hommes frappent la femme qui est soudainement éjectée de la voiture. La portière se referme aussitôt et le véhicule redémarre à toute vitesse dans les rues de la ville. Mais la victime est accrochée, retenue par sa ceinture de sécurité à l'extérieur de l'habitacle. Elle est traînée sur la chaussée à grande vitesse. Une scène d'horreur qui se termine 2 km plus loin lorsque la ceinture lâche dans un virage. La victime, hospitalisée au CHU de Nantes, est toujours dans un état grave.
Des obus de la Première Guerre mondiale ont explosé ce matin dans un champ à Sailly, en Ostrevent, dans le Pas-de-Calais. Ils n'ont pas fait de victimes, mais un immense cratère de 6 mètres de profondeur et 10 mètres de diamètre. 2016 se prépare maintenant au gouvernement. François Hollande avait convoqué ce matin tous les ministres pour un séminaire de travail parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Vincent Derosier, le président, a passé des consignes.
Oui, presque 4 heures de séminaire à huis clos. L'agenda de 2016 a été décliné et chaque ministre est reparti avec sa feuille de route. Faites preuve d'abnégation pour réussir l'année à venir, a dit François Hollande à ses ministres. Alors aujourd'hui, aucune décision n'a été prise, mais on a beaucoup parlé sécurité, d'autant que mercredi, le projet de réforme constitutionnelle arrive en Conseil des ministres. La déchéance de nationalité y figurera-t-elle ? Le président devrait trancher ce point ce week-end, au plus tard en début de semaine, confie un conseiller. Emmanuel Macron et Myriam El Khomri, la ministre de l'Emploi, ont également été très sollicités. Ce sont eux qui assureront le service après-vente des mesures pour l'emploi que le Premier ministre annoncera à la mi-janvier. Enfin, François Hollande, après avoir réclamé des idées nouvelles pour la culture et la jeunesse, a demandé que la conférence climat ne reste pas sans suite concrète. La France doit continuer d'avoir un temps d'avance en matière d'écologie, a-t-il expliqué. Alors en 2016, année préélectorale, François Hollande veut être un président protecteur, plus écolo, tourné vers la jeunesse, un profil de candidat à une élection présidentielle, même si sa promesse d'inverser la courbe du chômage est toujours loin d'être tenue.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. On marque une petite pause et puis dans un instant, le Père Noël et les cadeaux.
RTL Soir.
Marie Guerrier.
On retourne au stade Michel Dornano, Caen, PSG. Un nouveau but, Frédéric Veil.
Et encore un but parisien. Le doublé pour Angel Di Maria. Superbe but d'Angel Di Maria. Une tête de Lucas. Une reprise, petite reprise acrobatique d'Angel Di Maria pour l'Argentin. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On joue la 54e.
5 autres matchs de Ligue 1 seront à suivre ce soir sur RTL, 19h30. Le multiplex avec Christian Olivier. En Ligue 2, Lens a battu Bourg-en-Bresse 2-0 cet après-midi. Victoire également de Tours sur Metz 2-0. La Coupe d'Europe de rugby, défaite d'Oyonnax chez les Saracens de Londres, 55-13, mais victoire du Stade français, 40-14 contre les Italiens de Trévise. Et dans 5 minutes commenceront les rencontres Bordeaux-Bègle contre les Gallois d'Ospreys et Toulon face aux Irlandais du Leinster. Le secrétariat du Père Noël ferme dans 4 jours à Libourne en Gironde. Et il y est arrivé des millions de lettres. Depuis un mois, 60 postiers lutins y répondent. Alors il y a des dessins, des coloriages, des pliages, des lettres gaies, d'autres plus tristes qui demandent du réconfort. Des cours courriers arrivent aussi de Taïwan, de Corée, de Russie. Le courrier du Père Noël est parfois un exercice de français dans les écoles là-bas. Jusqu'à ce qu'ils voient les paquets au pied du sapin, les enfants se répètent en boucle ce qu'ils ont écrit sur leur lettre au Père Noël, Delphine Nougaret.
Oui, Quentin, Romane et Louis, par exemple, se sont vraiment appliqués pour écrire leurs lettres.
J'ai mis « Bonjour Père Noël, est-ce que vous allez bien ? Je voudrais pour Noël, s'il vous plaît, de petits points, j'ai écrit tout ce que je voulais. »
Un landau, un poupon.
Un drone, beaucoup de choses à télécommander.
Je lui ai écrit « Bonjour Papa Noël », j'ai été sage. J'ai fait un peu de bêtises.
Les jouets sont bien sûr en haut des listes, mais d'autres demandes seront peut-être plus difficiles à satisfaire.
J'aimerais avoir un autre petit frère.
J'ai écrit une photo de lui pour voir à quoi il ressemble, pour voir s'il avait vraiment une très longue barbe.
Je lui demandais qu'on pouvait avoir de la magie, carrément.
Carrément, mais le Père Noël ne peut pas tout et beaucoup d'enfants le savent déjà.
J'avais fait une liste de 12 cadeaux et là j'ai réduit à 2. Parce que des fois, il ne peut pas fabriquer tous les cadeaux parce que c'est trop.
Bah, en fait, il lit la liste et il dit « ça, c'est intelligent, je voudrais bien l'amener. Ça, c'est des jeux un peu idiots, non ?»
Parfois, si on n'est pas sage et il n'amène pas de cadeaux, on ne sait pas.
Voilà un reportage de Delphine Nougaret du bureau RTL de Marseille. Les enfants attendent donc les cadeaux du Père Noël. Les adultes, eux, s'offrent des cadeaux. L'invité d'RTL Soir, c'est Dominique Desjeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, anthropologue et vous vous êtes intéressé justement aux cadeaux, cette tradition qui fait que l'on s'offre des objets. Ça remonte aux Romains, c'est ça ?
Ah oui, ça remonte très très loin. C'est Martine Perrault qui montre ça dans un livre formidable qui s'appelle Noël et les cadeaux de Noël. Et en fait, ça remonte, la fête de Noël remonte aussi aux fêtes agraires, c'est-à-dire au changement de saison, au moment où le jour est le plus long. Et c'est à ce moment-là qu'on change et qu'on va offrir des cadeaux. Il y a une déesse qui s'appelle Estrenia, d'où vient le mot étrenne, qui est la déesse de la santé. Puis après ça, on peut passer au 19e siècle. Et c'est au 19e siècle que la tradition actuelle des cadeaux commence à se développer, notamment avec les grands magasins, notamment le Bon Marché, qui est très connu notamment à cause d'un livre de Zola qui s'appelle « Au bonheur des dames ». Et du reste, quand j'étais en Chine, il y avait une pub comme ça d'électroménager aussi sur le bonheur des dames. Donc c'est vraiment lié à la consommation. Et c'est à l'époque du Bon Marché, donc vers 1850, qu'on va se développer les cadeaux et surtout le fait qu'on empaquette, qu'on mette des beaux papiers autour des cadeaux, comme ça va se développer aujourd'hui. On voit aussi que c'est le moment où l'enfant devient important. On a un peu oublié aujourd'hui, mais en gros, avant le 19e siècle, l'enfant n'était pas important.
On n'offrait pas de cadeaux aux enfants.
Non, puis c'était pas important, oui. Un enfant. Ça comptait pas. Il pouvait mourir, c'était pas grave. Et à partir du 19e siècle, l'enfant devient important. Mais troisièmement, et c'est une chose que je trouve très rigolote qu'on observe encore aujourd'hui, surtout quand on va dans l'Ouest, c'est que Noël, les cadeaux, va être associé à une bataille permanente, plus ou moins forte, entre en gros la tradition chrétienne plutôt catholique, celle de la crèche, et la tradition dite païenne, celle du Père Noël, je crois qui émerge vers le 19e siècle, notamment je crois qu'elle vient de Turquie ou d'Asie mineure, et qu'on va retrouver en Allemagne, en Autriche, dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais pas en Scandinavie, sous la forme de Saint-Nicolas vers le mois de décembre.
Le 6 décembre. Voilà. Il y a une prise de risque quand on offre un cadeau, le risque de déplaire en fait.
Ah oui, ça c'est quand on fait des enquêtes sur les cadeaux, et ça m'a étonné au début parce que je n'avais pas fait attention à ça. Mais c'est vrai qu'il y a soit on se dit tiens, on va faire une surprise, et quelque part le plaisir de faire un cadeau, c'est de surprendre, mais de surprendre en bien. La personne qu'on aime et à qui on va faire une surprise. Donc il faut quand même bien se renseigner. Mais on a une chance, est-ce que c'est une chance sur deux ou trois, on ne sait pas très bien, de se tromper et donc de la décevoir. Et donc l'autre façon de faire, l'autre façon d'offrir un cadeau, c'est de dire, bon, je vais lui demander ce qu'il veut, il y aura moins d'effet de surprise, moins d'excitation, mais au moins je suis sûr que je lui ferai plaisir.
Ouais, et puis donner de l'argent aussi, c'est devenu finalement une manière de faire des cadeaux.
Alors ça, c'est, j'ai jamais bien su le pourcentage ou les chiffres là-dessus. Ça dépend beaucoup, je trouve, des traditions. Par exemple, si je travaille beaucoup en Chine depuis une vingtaine d'années, entre autres au Brésil, aux États-Unis, en Chine, la tradition, c'est donner de l'argent et c'est même les enfants qui donnent à leurs parents dans une enveloppe rouge de l'argent. En France, j'ai rarement vu des enfants donner de l'argent à leurs parents.
Oui, non, ça c'est pas dans ce sens-là, non.
Vous voyez qu'en Chine, c'est dans l'autre sens, c'est intéressant. Hein. Et enfin, donner de l'argent, c'est compliqué, parce que ça peut aussi bien vouloir dire « je m'en fiche un peu, parce que c'est impersonnel, l'argent », que de vouloir dire aussi « avec ça, je suis sûr que tu pourras t'acheter ce qui te fait plaisir ». Donc l'argent, alors il semblerait d'après l'enquête de Deloitte qui vient de sortir, qui est du mois de novembre, que l'argent redeviendrait important. Mais ça, il n'y a que les instituts de sondage, moi je suis un vrai qualitatif, je ne fais pas d'enquête quantitative, mais les instituts de sondage peuvent dire effectivement si l'argent est plus important aujourd'hui.
Mais pourquoi on se dit toujours, mais c'est difficile de trouver un cadeau, on a parfois tellement de mal à trouver un cadeau pour la personne?
Parce que en réalité, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a une explication ou une réponse, mais Daniel Cohen vient de faire un livre sur le fait que les richesses mondiales étaient finies, donc l'énergie, les ressources de matières premières, etc. Tout ça, c'est fini, mais le désir est infini. Et dans le cadeau, il y a un vrai problème qui est qu'il y a une demande infinie du cadeau. Cela dit, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des éléments, quand même, pour mieux savoir comment faire un cadeau. On a clairement un effet mode que je trouve assez drôle, moi ça me choque pas du tout, un Star Wars que je connais pas bien parce que c'est pas du tout ma génération, mais clairement on
c'est
va avoir
thème,
des demandes.
Coup,
c'est
voilà.
un thème, voilà, et puis ça correspond à des effets générationnels, ça crée des liens entre les quarantenaires qui ont été élevés là-dedans et leurs enfants.
Un grippin Dark Vador, on en a vu circuler un aujourd'hui dans la rédaction.
Beau, ça va être très beau, ça oui, absolument.
Merci beaucoup en tout cas Dominique Dejeux d'avoir été l'invité d'RTL Soir pour nous parler voilà, de ces cadeaux que l'on s'offre, de cette tradition à Noël. Merci.
Merci beaucoup.
Pas de neige à Noël, Valérie
non,
Quintin.
Ça marchera pas cette année, on va pas en avoir, en tout cas pas avant Noël, ça c'est sûr. Demain on récupère toujours de la douceur et un temps pluvieux, mais pas de neige. Il pleuvra dès le matin pratiquement sur le nord-ouest, des pluies qui vont suivre vers l'est dans l'après-midi. Elles s'étaleront donc dans un premier temps de la Vendée à la Somme, puis de la Gironde au nord avant de quitter le pays par l'est au cours de la nuit prochaine. Avant son passage, une bonne moitié est et le sud vont profiter du soleil, sauf les régions côtières du Méditerranéen, où là ce sera quand même assez nuageux, toujours des entrées maritimes. Mais après le passage des pluies, Bretagne, Pays de Loire et Cotentin vont récupérer aussi quelques éclaircies pas trop vilaines. Restent les températures, pas de gelée donc la nuit prochaine. Au réveil, on partira 2 degrés à Grenoble pour atteindre déjà 14 à Marseille dans l'après-midi, fourchette de 12 à 19 degrés, ça baisse un peu, très peu. Comptez 12 à Rouen, 14 à Paris et Lille, 16 à Bordeaux et Besançon, 17 à Marseille et à Lyon.
Merci beaucoup Valérie. Dans un instant, on refait les courses avec Dominique Cordier.
RTL Soir,
Marie Guerrier.
Bonjour Dominique Cordier.
Bonjour Marie.
Nous allons parler de courses bien sûr et parler d'or.
Exactement Marie, je ne peux rien vous cacher, nous allons exactement parler de cravache d'or. La cravache d'or, vous le savez, c'est ce challenge qui détermine le meilleur jockey en nombre de victoires et qui tient en haleine le monde des courses en cette fin d'année 2015. Pourquoi ? Il ne reste finalement que 12 jours avant de passer à 2016, mais une poignée de réunions de plats à disputer et le match entre Christophe Soumillon et Pierre-Charles Boudot est toujours aussi indécis. Absent des pelotons nationaux depuis la mi-novembre, époque à laquelle il avait une confortable avance, Christophe Soumillon pouvait dormir tranquille, du moins le pensait-on. Or, victoire après victoire, Pierre-Charles Boudot a refait son retard et a même dépassé Christophe Soumillon il y a quelques jours et il compte 5 succès d'avance. Au moment où je vous parle, Soumillon a gagné 171 courses et Boudot 176, la dernière il y a une demi-heure à Pornichet. Mais Soumillon a annoncé en cette fin de semaine qu'il allait défendre son titre dans l'espoir d'en remporter un huitième. Il sera donc en selle ce mardi à Marseille-Bivaux, puis à Deauville dimanche et lundi en 8. Quant à Boudot, il est en selle en ce moment à Pornichet où il lui reste une course à monter, peut-être une sixième victoire d'avance sur Christophe Soumillon, puis il courra lui aussi à Deauville les 27 et les 28 septembre. Une question, mon cher Claude Piersanti. Claude Piersanti, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que Christophe Soumillon peut rejoindre, voire dépasser, Pierre-Charles Boudot ?
Ben, ça s'annonce compliqué. À Deauville, le prochain week-end, il y aura 18 courses. Et le 31 décembre à Pau, il y en aura 2, donc 20 courses. Donc en supposant que Christophe Soumillon monte ses 20 courses, que peut monter également Pierre-Charles Boudot, il faut qu'il ait une réussite assez exceptionnelle. Refaire 5 gagnants sur Pierre-Charles Boudot, donc ça va être vraiment très compliqué. Déjà, Christophe Soumillon doit impérativement gagner mardi à Marseille-Vivaux. Et s'il veut gagner donc une huitième cravache d'or, il faut vraiment qu'il aille la chercher avec les dents, Dominique.
Affaire à suivre donc, mon cher Claude, on en reparlera la semaine prochaine. Pour refermer cette page de galop, sachez qu'Edouard de Rothschild a été élu à la présidence de France Gallo mardi dernier, un poste qu'il avait déjà occupé de 2003 à 2011. News un peu plus glamour, Roxane Griff, la formidable jument entraînée par Sébastien Garateau, disputera la dernière course de sa carrière samedi prochain à Vincennes. Roxane Griff est la seule jument de l'histoire à avoir dépassé les 3 millions d'euros de gains. Son palmarès, 21 victoires en 122 sorties publiques, dont le prix de Cornulier Autremonté l'an passé et le Grand Prix de Paris, ainsi qu'une deuxième place dans un prix d'Amérique. Une séquence émotion que je vous propose avec son propriétaire, Yves Bernard, qui a rencontré cette semaine à Vincennes, Bernard Glace.
La belle Roxane, il n'y a plus grand-chose à dire. Bon, elle a fini sa carrière, elle va courir le prix Le Meunier le lendemain de Noël. Après, c'est terminé, donc on va la redescendre chez nous, au Hara, et préparer sa carrière de maman, avec le vieux. Et la deuxième année, ce sera Reddy Cash, son concurrent et surtout ami, parce qu'il ne faut pas oublier que Roxane est une des seules, à l'époque, quand ils courent ensemble, avoir battu Reddy Cash à la régulière. Donc, en fait, le poulain sera certainement aux écoutes un peu de tout le monde quand il courra dans 3 ou 4 ans.
Rendez-vous donc samedi prochain dans le prix Jules Lemonnier à Vincennes et au Tromonté.
Il y aura 18 partants demain dans le Quintet Plus, Dominique.
Oui, ma chère Marie, et c'est très compliqué. Qu'en dites-vous, mon cher Claude ? Compliqué parce que 18 partants, mais également 8 étrangers dont on ne sait que penser.
Oui, donc les étrangers ont le vent dans le dos dans les courses européennes. Ils en ont gagné 18 depuis le début du meeting d'hiver. 2 victoires cet après-midi avec la Suédoise Jura Innes et le Norvégien Viking Vabene. Demain, il y a 4 Suédois, 3 Italiens, 1 Espagnol. Ils pourraient monopoliser les places à l'arrivée de ce quintet avec une priorité, la candidature de Oliver Kronos, le numéro 13, qui pour son retour à Vincennes a pris une très belle deuxième place.
Et justement, une deuxième place derrière Tell Me No Lies, le numéro 16, Oliver Kronos, le numéro 13. Pourquoi cette fois Oliver Kronos peut-il espérer devancer Tell Me No Lies ?
Parce que l'autre jour, donc, c'était une reprise de contact, le cheval avait le voyage dans les jambes, on l'annonce en progrès sur cette tentative et Holjan Kriström va certainement cette fois-ci être beaucoup plus motivé. Et Oliver Kronos avait fait également très belle impression cet été, du moins au mois d'octobre à Enghien. Donc une revanche d'Oliver Kronos est plus que possible et envisageable, Dominique.
Du côté des Français, si je vous dis Italien qui a une chance, c'est le numéro 15. Si je vous parle d'Uno Dancer, dont vous retrouverez l'interview du driver, à savoir Franck Nivard, sur RTL.fr en rubrique On refait les courses. Et éventuellement une Bridle de Charme, le 14. Est-ce que j'ai bon ?
Vous avez très très bon, Dominique. Imbrel Charme est un cheval qui vient de montrer un regain de forme à Cabourg. C'est un attentiste à pointe, donc il peut se montrer redoutable dans la phase finale. Talien vient de gagner sur le parcours 2700 mètres grande piste. Il monte deux catégories, mais il a la forme pour lui. Quant à Uno Dancer, il est irréprochable. Dans les 11 dernières courses, toujours dans les 5 premiers, 100% de réussite dans les quintets, 4 courses, 2 victoires, 2 places. Donc vous voyez, c'est très très sérieux, Dominique.
Le meilleur record sur le parcours, c'est un Italien que vous connaissez bien, Pionier Gare.
Pionier Gare. Donc un petit peu limité à ce niveau de la compétition, on peut penser à lui pour une 4e, 5e place.
Justement, c'est là où on l'a placé dans le pronostic commun qui sera donc le suivant. Vous l'avez compris, le 13 Oliver Kronos, le 16 Tell Me No Lies, le 8 Mafioso Face, le 6 Pionier Gare, le 18 Uno Dancer, le 15 il s'agit de Talien, le 7 Voyage d'affaires et le numéro 3 l'Overface. Je vous rappelle notre pronostic, le 13, le 16, le 8, le 6, le 18, le 15, le 7 et le 3. Voilà ma chère Marie, vous savez tout.
Merci beaucoup Dominique Cordier et Claude-Pierre Santi. Le foot en Ligue 1, Caen, PSG, Frédéric Veil.
Eh bien, il reste 20 minutes à jouer ici au stade d'Ornano de Caen et le Paris Saint-Germain mène 3-0, doublé d'Angel Di Maria et un but de Zlatan Ibrahimovic.
Il est 18h28, vous êtes sur RTL. Dans un instant, on refait le match avec Pascal Praud.